féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge avec vous.
Parole de femme.
Nahan Magasuba, merci d'avoir accepté cet entretien pour Le Monde au Féminin de VOA Afrique.
Bonjour Nathalie, et merci de m'avoir accordé cet entretien dans l'émission Monde au Féminin.
Vous êtes présidente du mouvement populaire pour la cohésion sociale au Mali, enseignante, spécialiste en genre et environnement en milieu rural, et vous œuvrez notamment au rapprochement entre diverses communautés du centre et du nord du Mali touchées par la crise sécuritaire. Pourriez-vous nous retracer les grandes lignes de votre parcours ?
Lorsqu'on me demande des grandes lignes de mon parcours, elles sont si nombreuses et si impressionnantes pour moi que je ne saurais citer que quelques-unes. À commencer par la rencontre, ma première d'ailleurs, celle qui reste inoubliable pour moi, est l'organisation par mon association de la rencontre préliminaire entre les chasseurs d'Onso, les ministres d'Onso, les groupes armés, les FDS, la société civile, à Nyono. Nyono est un cercle de la région du Ségou. Et ce qui m'a encore plus impressionné, c'est le fait que j'ai pu voir la population de Farabougou. Farabougou, un village de la commune de Ségoulou, ça fait à peu près 3 ans que Farabougou est sous embargo. Et Farabougou est devenu un village oublié par le reste du monde. Parce que Farabougou avait été pris en otage une première fois. Après, il y a eu un consensus entre les djihadistes et le Haut Conseil islamique du Mali. Et c'est tout juste après ce consensus que mon organisation a été pour l'organisation de la rencontre préliminaire entre les différents protagonistes. Cela a été fait en partenariat avec le ministère de la Réconciliation nationale et l'ONG Merci Corps. L'une des grandes lignes aussi de mon parcours a été mon invitation par la commission d'organisation de la 22e édition du Forum de Bamako en tant que vitrine des femmes leaders du Mali. Et un forum qu'on organise chaque année à Bamako qui regroupe plus de 3000 personnes. Et la thématique de 2022, c'était « Femmes, paix, sécurité et développement ». Le choix sur ma personne a été fait par la commission parce qu'elle a constaté que parmi les femmes jeunes leaders du Mali, je faisais partie de quelques rares qui se sont rendus sur le terrain dans les zones à risque, qui ont pu aller voir ces jeunes, ces femmes, ces hommes qui sont en détresse. Mais en plus de cela, je fais partie aussi de ces femmes déplacées qui a été d'abord déplacées avant de créer un mouvement dénommé Mouvement populaire pour la cohésion sociale au Mali. En octobre passé, j'ai pu amener Nana Pléa avec moi lors de la table ronde basée sur une réponse alternative pour faire face au terrorisme et à l'extrémisme violent dans la région du Sahel et qui a été organisée par l'Union africaine en partenariat avec le cabinet ISEN en Côte d'Ivoire. Et pourquoi cela m'a beaucoup impressionnée? Parce que moi, mon souhait, c'était pas seulement de dire que ça ne va pas au centre du Mali, mais c'était aussi d'encourager ces femmes telles que Nana qui, n'étant pas intellectuelle, a eu le courage de former un groupe de femmes en 2017 lorsque les tensions étaient chaudes entre les chasseurs d'Onso et les Peuls dans le cercle de Massina. Nana s'est fait accompagner par d'autres femmes pour chercher à voir le chef des Peuls, Amadou Koufa, et le chef des Onso afin de les pousser à aller au dialogue. Et grâce à une femme comme Nana Pléa, il y avait eu une entente en 2017. Mais chose bizarre, à la fin même, au moment où le pacte devait être fait entre les représentants des deux protagonistes à Bamako, on n'a pas cité le nom de Nana. Alors qu'à la base, c'est Nana qui a eu l'idée, c'est Nana qui s'est fait accompagner par d'autres femmes. Et j'ai fait la découverte de Nana à travers le préfet Amarisak, Albaraka Amarisak de Massina, lors d'une de mes missions à Massina.
Vous avez été professeur de musique à Gao étant très jeune. Pouvez-vous nous raconter comment s'est passée cette période?
Ah oui, étant très jeune, me voir devant les lycéens pour dispenser le cours de musique n'était pas facile. La difficulté n'était pas au niveau de la transmission du savoir, mais c'était dû au fait que certains élèves étaient de la même génération que moi. Donc, il me fallait imposer le respect. Le début n'était pas facile, mais j'ai su m'imposer et par fini, j'étais même devenu le professeur ami de ses élèves. Et je remercie Dieu de voir aujourd'hui qu'il y a certains de mes élèves qui sont devenus des cadres au niveau de la gendarmerie ou au niveau de certains services publics du Mali. Donc, je peux dire que ça a été une belle expérience. Aucun début n'est facile, mais lorsque on a le courage et la détermination, on parvient à atteindre le bout du tunnel. J'ai toujours mis cela en tête. Je me dis que ça va aller. Et tant que j'ai en tête que ça va aller, ça ira.
Militantisme politique, cela a commencé aussi très jeune chez vous. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire de la politique?
Le militantisme politique, je l'ai commencé très jeune, mais je ne l'ai pas cherché. Je veux dire que le hasard fait bien les choses. Et on est venu vers moi parce que j'étais très dense dans les activités associatives, dans les clubs, etc. Donc, on est venu vers moi. Au début, je n'étais même pas intéressée. Mais lorsque je me suis lancée, ça a été une expérience de plus pour moi. Je l'ai commencé depuis à l'âge de 16 ans. Et à l'âge de 21 ans, je me suis retrouvée au Bureau national comme l'une des chargées de communication du Bureau national du Mouvement patriotique pour le renouveau, qui est le MPR de l'actuel Premier ministre du Mali, Dr. Chovel Kogala Maïga. Et ça a été une expérience, une belle expérience pour moi. Je peux dire que ce sont ces expériences qui m'ont formée, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, qui ont fait que je parviens à m'exprimer, à dire ce que je pense, à me battre pour atteindre mes objectifs. Quand je me dis il me faut faire cela, je fais tout pour le faire. Et je peux dire que c'est grâce au militantisme politique que j'ai été formée.
Nahan Magasuba, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été déplacé par la rébellion armée. C'est une période très douloureuse de votre vie, n'est-ce pas?
Ah oui, comme on le dit, chacun de nous garde au fond de lui une douleur profonde. En 2012, j'ai été déplacé par la rébellion armée. Mais le pire est que j'étais enceinte de ma première maternité, de mes premiers enfants, et c'était des triplés. Et je vous avoue que j'ai eu toutes les peines du monde. Car j'ai accouché prématurément, j'ai perdu mes trois enfants, c'était deux garçons et une fille. Et souvent on dit que ce sont ces séquelles de la vie qui nous renforcent, disons, qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des femmes leaders. Et derrière chaque femme leader se cache une histoire triste qui la rendit si forte qu'elle est prête à tout pour atteindre le bout du tunnel.
À travers le mouvement populaire pour la cohésion sociale au Mali, vous participez à des projets de réconciliation entre différentes communautés maliennes, comme vous l'avez précisé. Quelles sont les raisons des conflits entre ces communautés?
Oui, à travers le mouvement populaire pour la cohésion sociale au Mali, J'ai eu à participer à des projets de réconciliation entre différentes communautés maliennes. Et je vous assure que la plupart des raisons sont liées au litige foncier, des raisons de marginalisation, des raisons d'injustice sociale. Et la communauté qui se sent marginalisée, la plupart du temps, c'est cette communauté qui a été facilement instrumentalisée par les djihadistes et qui a même rejoint le rang des djihadistes. Elle s'est dit que maintenant, ma force, ce sont eux pour combattre mes frères du même village, de la même commune, de la même région. Et voilà comment le djihadisme a pris de l'ampleur, le terrorisme a pris de l'ampleur au Mali. Certains ont été privés de leurs terres parce qu'on dit qu'ils sont des hôtes. Et ceux qui ont été les créateurs des villages se disent que ce sont nous qui sommes les natifs d'ici. Vous êtes venus nous trouver ici, donc vous n'avez pas droit aux terres. Donc, il y a eu tellement d'injustice sociale que ces gens se sentaient marginalisés. Par finir, ils se sont associés à des terroristes contre leur propre pays, contre leur propre communauté.
Il y a une dizaine d'années, lorsque les djihadistes occupaient certaines régions du Mali, la liberté des femmes était très restreinte. Est-ce que l'on se retrouve dans ce même type de situation dans certaines localités aujourd'hui?
Oui, entre 2012 et 2013, lorsque les islamistes radicaux occupaient certaines régions du Mali, la liberté des femmes était très restreinte. Et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'elle l'est encore. Je peux même dire que les choses se sont empirées. Même si nos gouvernants ont fourni beaucoup d'efforts en libérant beaucoup de villages, de cercles ou de communes, cela n'en est pas le cas pour beaucoup d'autres villages. Des villages tels que Farabougou, qui sont sous embargo depuis 3 ans. Il y a des femmes qui sont violées parce que les djihadistes prennent des villages tout entiers et ils peuvent mettre un embargo d'une année, 2 ans sur ces villages-là et ils font ce qu'ils veulent avec les femmes de ces villages. Souvent, ils marient même de force certaines femmes, donc ce n'est pas facile.
D'une manière générale, comment vivent les populations qui subissent encore les violences de groupes armés au Mali?
D'une manière générale, les populations qui subissent encore les violences de groupes armés vivent dans la terreur, dans la peur, dans l'angoisse totale. Au nord même, ça va, parce que avec l'exploit de l'armée malienne à Kidal, à travers cet exploit-là, ils ont pu libérer beaucoup de villages. Mais c'est vers Ménaka, dans la région de Ménaka, que ça va pas. Mais les choses commencent à bouger au nord. C'est plutôt au centre que les djihadistes ont pris beaucoup de villages en otage. Et ils n'hésitent pas à tuer des hommes et des femmes, des enfants, à brûler tout un village. Et il y a certains villages qui n'existent même plus. Donc, on ne peut parler que de la terreur. Ceux qui vivent vraiment, qui subissent les violences des groupes armés, sont dans l'angoisse totale.
Nahom Agassouba, vous vous intéressez à la participation des femmes et des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent. De quel ordre sont ces sensibilisations? De quelle manière sont-ils invités à agir contre ce fléau?
Oui, je m'intéresse beaucoup à la participation des femmes et des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme violent. Je dirais que jusqu'à présent, au Mali, les jeunes et les femmes ne sont pas impliqués comme il le faut. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'inviter quelqu'un, mais il s'agit de mettre la personne devant les faits, de prendre cette personne comme un acteur principal de la chose. Et c'est ce qui manque beaucoup au Mali. Et moi, je suis sûre que si nos autorités parviennent pas seulement à se faire accompagner par les femmes, mais à mettre les femmes devant les faits, à constituer des groupes de femmes comme des actrices principales contre ce fléau, c'est sûr que nous pourrons vraiment bouter le djihadisme hors du Mali. Parce que qui dit femme, dit jeune. On dit en Afrique que l'oreille de l'enfant appartient à sa mère. Parce que on a vu que beaucoup de jeunes ont été influencés par les djihadistes. ils sont partis dans le rang des djihadistes comme ça. C'est parce que les femmes, même les mamans de ces jeunes ne sont pas préparées mentalement contre ces fléaux. Mais lorsqu'on parvient à faire plus de sensibilisation, à faire adhérer plus de femmes dans des projets de lutte contre l'extrémisme violent, c'est sûr qu'on parviendra à bouter l'extrémisme violent hors du Mali et pourquoi pas hors de l'Afrique.
Vous êtes spécialisée aujourd'hui dans les questions de genre et environnement, en particulier en milieu rural. Quels sont les défis et les solutions pour les femmes rurales sur cette question?
Les défis, pour moi, restent l'autonomisation de ces femmes. La formation aussi est vraiment le défi à relever. Parce que j'ai compris que dans le milieu rural, ces femmes manquent de confiance en elles. Surtout, la plupart d'entre elles ne sont pas intellectuelles. Donc, il faudrait booster cette confiance en elles, les encourager. Et cela ne peut aller sans formation. Il faudrait mettre des moyens financiers et techniques à leur position de telle sorte qu'elles puissent se prendre en charge et être indépendantes. Quand on parle de défis, là, on voit les défis en termes de solutions. Ça fait partie d'une de mes activités phares. Encourager ces femmes à aller au-devant, à être indépendante, avoir confiance en elle, c'est très important.
Que pouvez-vous nous dire sur l'accès des femmes à la terre en milieu rural? Déjà, y a-t-il au Mali des réformes en ce sens? Et concrètement, quelles sont les actions entreprises pour leur permettre cet accès?
Bien sûr, il y a des réformes. Il y a des réformes et il y a beaucoup d'ONG qui sont impliquées pour que ces réformes puissent s'appliquer. Parce qu'au Mali, on dit qu'il n'y a que les 15%. La femme a droit à 15% de la terre. Et maintenant, les ONG qui partent travailler dans les milieux ruraux imposent même sur la population à ce qu'il y ait une terre spécialement pour les femmes. Il y a certaines même qui financent, qui louent souvent des terres pour ces femmes-là, pour qu'elles puissent travailler. Il y a certains même qui les achètent des terres. Mais ce n'est pas facile, parce qu'en Afrique, surtout au Mali, il y a ce fléau qui est là. On dit que la femme n'a pas droit à la terre. Donc souvent, ça pose problème. Mais avec les réformes, surtout maintenant, l'État commence à s'impliquer. Et avec l'implication de l'État et des organisations non gouvernementales qui vont sur le terrain, ils imposent aux leaders ruraux à ce qu'on donne 15% des terres aux femmes pour qu'elles puissent travailler là-dessus. Les choses commencent à être comprises petit à petit.
Voudriez-vous nous parler d'un projet en particulier concernant le mode d'organisation des femmes dans l'agroalimentaire au Mali?
Le projet dont je peux vous parler est le projet Erika Fevec. C'est une initiative du cabinet SN et de l'école de maintien de la paix. Je fais partie de ce réseau. C'est le réseau des femmes pour la paix et le changement au Mali qui a été créé il y a 4 ans de cela. Et l'initiative même, c'était de rassembler l'ensemble des femmes leaders, les femmes qui sont issues de l'accord d'Alger. Maintenant, même si ce n'est plus d'actualité, nous étions avec nos sœurs du Nord qui sont de l'accord d'Alger. Il y avait aussi nous qui sommes de la société civile. Il y avait aussi des dames policières. Donc, l'initiative, c'était de nous former d'abord à montage de projets et vers la formation de financer des activités génératrices de revenus des femmes. La plupart de ces projets étaient basés sur la pisciculture, la culture hors sol. Il y a des plats que nous faisons ici au Mali, un plat surtout qu'on appelle le djouga. Il y a des femmes qui sont spécialisées en ça. Elles le cuisinent et puis elles le mettent dans le séchoir. Elles le vendent. Il y a aussi qui sont spécialisées en transformation d'épices. Le Café Vec, c'était vraiment un projet très intéressant, mais qui tend vers la fin. Et beaucoup d'ONG financent des projets de ce genre, des AGR, activité génératrice de revenus. La culture hors sol, la transformation de nos produits locaux, surtout la pisciculture qui est en vogue.
Magasouba, vous œuvrez aussi pour la participation des femmes à la vie politique et leur accession aux postes électoraux. Qu'en est-il aujourd'hui de cette participation?
Oui, j'ai d'ailleurs coordonné un projet en ce sens. J'ai été coordinatrice régionale d'un projet et je peux dire qu'aujourd'hui ça va parce qu'avec les nouvelles autorités, ils ont décidé de mettre les femmes au devant. On ne peut pas dire la scène politique parce qu'avec la période transitionnelle au Mali, nous ne pouvons pas dire que il les incite à la vie politique. Mais dans la gestion du Mali en général, actuellement, les femmes sont impliquées. Surtout, la loi 052 est beaucoup plus en compte actuellement au Mali. C'est le plus important. Et nous, femmes leaders qui sommes de la société civile, si toutefois nous parvenons à nous donner la main, c'est sûr que nous pouvons inciter à revoir encore plus. Parce que la loi 052 exige qu'il y ait soit 30% des femmes, soit 70% des femmes, ou soit 30% des hommes, ou soit 70% des hommes. Mais au Mali, on nous a fait croire qu'à chaque fois qu'il y a nomination, que la femme n'a droit qu'à 30%. Donc il faut une large sensibilisation, pas seulement sensibiliser, mais inciter ces femmes braves à avoir confiance en elles et inciter les autres femmes aussi à encourager la candidature d'une femme et non voir en cette femme une rivale. C'est très important.
Vous êtes jeune, donc vous avez un bel avenir devant vous. Quels sont vos projets, vos ambitions? Que souhaitez-vous pouvoir réaliser de nouveau?
Ah oui, Nathalie, j'ai 40 ans et je me dis que oui, j'ai encore un bel avenir devant moi. Et l'un de mes projets, c'est de chercher mon master en communication politique et développement. Et je veux encore aussi mener des projets au centre du Mali. Actuellement, on aimerait faire des forages à un camp de déplacés. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de gens font des forages ici à Bamako, au camp de déplacés de Bamako. Donc nous pensons beaucoup à ces femmes, ces jeunes, ces hommes qui sont à l'intérieur. Nous nous disons pourquoi ne pas essayer de les aider. Et qui sait, comme on le dit, si on ne fait pas la politique, elle nous fera. Donc peut-être que Nahan aura aussi des ambitions politiques dans les jours à venir.
Nahan Magasouba, présidente du Mouvement populaire pour la cohésion sociale au Mali, actrice du changement et du développement en zone rurale, spécialiste en genre, paix et environnement, merci beaucoup pour ce temps que vous avez consacré au monde au féminin de VOA Afrique. Bonne continuation et à très bientôt.
Merci Nathalie de m'avoir accordé cette interview et mes encouragements pour cet excellent travail. Et je ne saurais terminer sans remercier les auditeurs de votre radio. Merci.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est ici que se referme le monde au féminin. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.